Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Josephine, I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and throw it on the ground.
Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent les parcours de conception de nos familles. Vous entendrez aussi et surtout des familles homoparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de nos quotidiens qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 5 de la saison 2 du podcast Les enfants vont bien. Cet épisode est le premier de la série enregistrée avec Marion de Hâte Maison sous la Lune, doula de formation et spécialiste de l'accompagnement des familles dans la maternité, queer ou non. Il nous est apparu nécessaire de réaliser un épisode complet sur le lexique qui nous entoure pour définir nos identités, nos genres et nos sexualités. Évidemment, loin de notre idée de nous rentrer dans des cases, mais c'est un fait, ce vocabulaire existe, aussi parce que certains d'entre nous ont besoin de se définir. D'autres, par contre, au contraire, se refuseront à définir une personnalité en un seul mot, en un seul genre, et surtout pas par sa sexualité. Je vais vous mettre à l'aise, je l'avoue, j'ai découvert certains termes lors de notre premier enregistrement avec Marion et sa femme Maëva, lorsqu'elles m'ont raconté leur parcours dans l'épisode 23 de la saison 1. Et pourtant, je suis directement concernée par certains de ces mots. Alors comment ne pas se rendre compte de la nécessité et de l'urgence sur le chemin de notre visibilité, de les décrypter pour éclaircir le débat aux yeux de tous. C'est donc avec toute la douceur, la bienveillance et l'humilité que Marion véhicule que nous avons pris le temps de mettre du sens sur des mots pas, peu ou mal usités, car même les médias font des amalgames. Nous avons parlé au-delà de la définition de notre acronyme, de cisgenre, d'alliés, et de l'accompagnement idéal que devrait recevoir une famille queer dans l'entrée dans la maternité. Dois-je vous avouer que malgré un premier enregistrement, et donc un premier pied dedans, la subtilité de certains termes m'est à nouveau apparue lors du montage de cet épisode ? Et dois-je vous avouer aussi que notre cheminement à toutes les deux, quant à ces mots, a bougé au gré de notre discussion au sein de cet épisode ? Le chemin vers la construction d'une nouvelle vision de l'identité et la déconstruction d'une norme binaire ancrée dans nos pensées est long. Mais la bonne nouvelle est que la route est dégagée pour la plupart d'entre nous. Je vous laisse découvrir cet épisode très enrichissant avec la voix apaisante de Marion à mon micro. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonsoir Marion.
Bonsoir Constance.
Je suis ravie de te retrouver à nouveau à mon micro ce soir pour pouvoir enregistrer un épisode donc qui va être un peu plus axé professionnel et information. Je vais rappeler d'abord pour commencer à nos auditeurs qu'ils peuvent retrouver ton épisode de témoignage sur l'épisode numéro 23 du podcast et donc du coup te connaître un peu plus en détail et en profondeur, en tout cas à titre personnel. Dans cet épisode, on avait évoqué le fait que ton métier est d'être doula, donc une spécialité autour de la périnatalité qui aujourd'hui, je pense, va prendre une grande ampleur, en tout cas en France, puisqu'elle est méconnue et qu'elle a un vrai intérêt. Et c'est du coup par rapport à cette spécificité-là que j'ai souhaité te faire intervenir dans le podcast pour des épisodes qui seront beaucoup plus axés accompagnement de nos couples, de nos genres, on va dire aussi, et accompagnement dans la périnatalité. Dans ce cadre-là, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter à titre professionnel ?
Oui, alors je suis doula depuis septembre 2019, où je me suis formée auprès d'Isabelle Chalut, qui est une Française qui vit au Québec depuis des années. Et donc je me suis formée en Belgique, auprès d'elle, pendant une semaine en intensif. C'était un peu comme une retraite entre femmes, où j'ai appris le métier de doula et énormément de choses sur la naissance physiologique et sur le soutien, l'écoute empathique des couples et des personnes seules. Et ça a été vraiment transformateur. C'était juste avant que je sois enceinte, en plus. Et d'ailleurs, on est quatre à être, à être devenues enceintes dans le mois qui a suivi la formation. C'est assez rigolo.
Ah, c'est drôle, ça.
Ouais. C'est drôle. Et puis ensuite, je me suis formée aussi auprès de Karine Langlois, qui est une sage-femme et doula québécoise. Et là, c'était en virtuel et c'était au mois de mai. Donc, j'ai traversé le séminaire de 3 jours de formation. Et là, c'était sur l'approche quantique de la naissance entre science et sacré. Et en fait, le quantique, c'est la science de l'invisible qui agit sur le visible. Donc, c'était très large et très, on peut dire, magique comme approche.
Oui, tout à fait. Karine, je crois qu'on peut la retrouver sur le compte Quantique Mama, c'est ça ?
C'est ça, c'est Quantique Mama.
Tout à fait.
Oui.
OK.
Donc, ce sont mes deux formations de doula.
Oui, effectivement, Karine, clairement, enfin, quand on suit un peu son compte, elle est hyper inspirante. Elle est d'une sérénité dingue malgré toutes les épreuves qu'elle traverse. Je pense que c'est quelqu'un de très enrichissant.
Oui, ah oui. Toutes les deux. Isabelle Chalut, elle a écrit plusieurs livres, dont un qui s'appelle « Rituel de femme pour réenchanter la maternité ». Et qui parle c'est ça, elle propose plusieurs rituels dans son livre, et notamment des rituels de préconception aussi, et qui vont jusqu'au quatrième trimestre. Et puis, et puis Karine, Quantique Mama, elle a un blog très, très inspirant. Complé. Aussi. Ouais.
Ce que je vais faire, c'est que je rappellerai en note de cet épisode le titre du livre que tu viens de donner. Comme ça, nos auditeurs pourront le retrouver facilement.
Ouais, super.
Donc, ce qu'il faut aussi préciser, donc, tu l'as dit, à nos auditeurs, c'est qu'aujourd'hui, tu es enceinte d'un peu plus de 38 semaines. Donc, bébé va très bientôt pointer le bout de son nez. Et cette aventure-là continue à compléter ta formation et à enrichir tes connaissances.
À fond, oui, complètement. J'ai eu d'abord, on pourrait dire, toute la théorie, et là, je le vis en pratique.
Voilà.
Donc, ouais.
Donc aujourd'hui, si j'ai souhaité qu'on se rencontre, c'est pour qu'on puisse enregistrer un épisode. Alors, on a beaucoup de thèmes à aborder ensemble. On va essayer de les faire assez rapidement avant l'arrivée de bébé pour qu'on puisse avoir un petit peu de jeu et qu'ensuite on puisse se revoir quand tu auras soufflé un petit peu. Le premier thème que tu m'as proposé d'aborder et je pense qu'il est hyper important parce que moi-même, dans l'enregistrement de notre épisode de témoignage, j'ai découvert des compléments de notre acronyme. C'est un épisode sur les lexiques, tous les termes, en fait, sur le lexique et tous les termes qui peuvent accompagner et soutenir nos familles queer, en fait.
C'est ça, LGBTQIA+, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ?
Exactement, alors moi je m'étais arrêtée à LGBTQ.
Oui.
Le IA+, je ne l'avais pas. Donc, alors, honte à moi, hein, quelque part, parce que je devrais quand même être relativement informée. Il s'avère que ce n'est pas le cas. Je pense que ce n'est pas non plus le cas de tout le monde. Donc, est-ce que tu peux aujourd'hui me définir cet acronyme et définir chaque terme de cet acronyme ?
Oui. Avant de les définir, j'ai envie de dire aussi que ces termes-là, ils ne servent pas à étiqueter les personnes, mais plus à permettre aux personnes de s'identifier, de se reconnaître, si elles en ont envie ou besoin. Et parce que oui. On m'a posé la question, on m'a dit « Ah, mais je pensais pas que dans, par exemple, pour les personnes non-binaires, elles avaient besoin de se reconnaître dans la non-binarité. Sauf que sans reconnaissance, il n'y a pas d'existence. » et c'est pour ça que l'acronyme LGBTQIA+, il a son importance pour nos familles.
Tout à fait. Mmh. Alors du coup, est-ce que tu peux commencer par définir non-binaire ?
Oui. Alors, non-binaire, ce sont les personnes qui ne se reconnaissent pas ni dans le genre féminin, ni dans le genre masculin, quel que soit leur sexe. Donc en fait, peut-être que je vais faire lettre après lettre.
Oui, ce sera le plus simple.
Ouais. LGBT, L, lesbienne, donc ce sont deux personnes qui se reconnaissent dans deux personnes ou plus d'ailleurs, une lesbienne et une personne qui se reconnaît dans le genre féminin, qui est attirée sexuellement ou romantiquement. Je ne sais pas si ça se dit romantiquement.
Non, alors je ne sais pas. Enfin, je pense que oui, en tout cas, c'est très clair. Enfin, moi, je trouve que c'est très clair.
Qui est donc, qui a son orientation sexuelle ou romantique, ça va vers une autre personne qui se reconnaît dans le genre féminin.
D'accord. Donc ça, c'est à peu près clair pour nous toutes.
Voilà. Le G de LGBT, c'est gay. Donc c'est la même chose pour des personnes qui se reconnaissent dans le genre masculin.
Voilà, donc qui est à peu près connu de nous tous, pour le coup.
Oui. Bisexuel, au féminin comme au masculin, ce sont des personnes qui sont attirées autant par des personnes qui se reconnaissent dans le genre féminin ou masculin.
D'accord, mais qui elles sont bien ancrées dans leur genre.
Peu importe en fait.
D'accord.
Peu importe, c'est ouais, il y a en fait, par exemple, une personne, quel que soit son sexe, qui se reconnaît dans le genre féminin, peut être attirée par des personnes, quel que soit leur sexe, qui se reconnaissent dans le genre féminin ou masculin.
D'accord, ok.
Mais il y a quand même une différence avec la pansexualité qui vient dans les plus, LGBTQIA+, où les personnes pansexuelles, elles sont attirées par des personnes, peu importe leur sexe. Donc, la différence avec la bisexualité, c'est que une personne bisexuelle, elle va être attirée par cette personne qui se reconnaît, qui est un garçon ou pas, qui est un homme, et par cette personne qui est une fille, qui est une femme. Donc, alors que la personne qui est pansexuelle, elle va pas se dire en ce moment je suis avec un mec ou avec une meuf, elle va juste être avec une personne.
Oui, en fait, c'est ça. Elle est attirée par une personnalité.
C'est ça.
D'accord, ok. Ça. C'est vrai que la différence n'est pas simple à saisir, en fait.
Oui. Oui, c'est vrai.
Donc, on en était au T.
Ouais. Peut-être que pour définir un peu plus, pendant un long moment, les personnes autour de moi disaient que j'étais bisexuelle parce que j'ai été en couple avec des hommes et en couple avec des femmes, qui étaient cis, dans les cis genres, que je définirai tout à l'heure, dans les deux cas. Et donc, le fait que je sois avec des hommes ou avec des femmes, on m'a dit « Ah, en fait, tu es bisexuelle. » Et moi, je disais « Bah, en fait, non, je me sens pansexuelle quand je suis en couple avec une femme et je me sens pansexuelle puisque je sais qu'un homme peut me plaire. Pour autant, quand je suis avec un homme, je sais que je suis lesbienne. Donc,
d'accord.
En fait, tout ça dépend vraiment de comment on s'identifie et comment on s'identifie sur le moment.
Oui, voilà, c'est ça. C'est aussi une question du moment.
On ne devient pas lesbienne d'un coup, ou on dit souvent elle est devenue lesbienne, elle a changé de bord. Et en fait, il n'y a pas vraiment de. Oui, c'est ça, ça dépend comment on se définit à ce moment-là, et ça peut évoluer, et tant mieux.
Voilà, c'est ça. C'est exactement là où je voulais en venir, c'est qu'en plus de ça, on est tous capables d'évoluer, et tant mieux, sinon la vie serait, je pense, morne.
Oui, c'est clair.
Ok. Ouais. Alors, Donc, du coup, je te disais, on en était au T.
Oui.
De LGBT.
Alors, le T de LGBT, souvent, en fait, l'acronyme s'arrête au T. LGBT. Mmh. Donc, si lesbienne, gay et bisexuelle définissaient une orientation sexuelle ou romantique, transgenre, ça définit pas du tout une sexualité. Transgenre, c'est une identité de genre. Et donc, les personnes transgenres, et on fait bien attention à comment on utilise ce terme, on ne dit pas les trans, on dit les personnes trans, parce que c'est un adjectif, en fait, c'est pas un nom. Donc, la personne transgenre, c'est une personne dont le genre n'est pas celui qu'on lui a assigné à sa naissance, contrairement à une personne cisgenre.
Donc voilà, qu'on a donc défini, la personne cisgenre est donc une personne qui a le même sexe que celui qui lui a été attribué à la naissance.
Elle a le même genre. En fait, le sexe...
C'est
intéressant justement ça. Parce que la personne transgenre ne fait pas forcément de transition, soit hormonale ou avec une opération pour changer de sexe physique.
D'accord.
La personne transgenre, juste, elle n'a pas le genre qu'on lui a assigné. Donc, souvent, on nous assigne le genre. Si on a une vulve, on est une fille, on devient une femme. Si on a un pénis, on est un garçon et on devient un homme. Les personnes transgenres, elles ne se reconnaissent pas dans le genre qu'on leur a assigné.
D'accord.
Ouais.
Et est-ce que les personnes transgenres sont les personnes qui ont changé changer d'identité finalement.
Elles peuvent faire les démarches pour changer d'identité administrative, mais pas nécessairement.
Oui. D'accord, donc c'est juste le fait en fait qu'elles ne se reconnaissent pas dans le genre qui leur a été attribué.
C'est ça, soit ces personnes-là, elles vont choisir de changer de pronom par exemple, de passer de il à elle, ou l'inverse, mais même pas forcément en fait. Il y a des personnes... parce que transgenre, c'est un peu un terme parapluie qui regroupe plein d'identités de genre différentes, comme la non-binarité, le fait de ne pas se reconnaître ni dans un genre ni dans l'autre. Mm-hmm. Les personnes transgenres, elles peuvent changer de genre, se dire « moi, je ne suis pas un homme, je suis une femme ». Mais les personnes non-binaires, elles ne vont pas changer de l'un à l'autre. Juste, elles se sentent ni l'un ni l'autre. Et elles sont ni l'un ni l'autre.
Ouais. Mmh. Et c'est vrai que tu le dis très bien, c'est effectivement un terme parapluie qui d'ailleurs finissait l'acronyme parce que ça regroupait finalement beaucoup d'autres choses, on va dire. Beaucoup d'autres types de personnalités. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas moi personnellement, je suis un peu perdue dans tout ce qui a été rajouté par la suite.
Oui.
Donc, on passe au Q.
Donc, le Q, c'est queer et c'est aussi un terme parapluie. Et moi, je préfère utiliser le terme queer pour me définir que lesbienne, puisque le terme queer définit toute personne qui n'est pas hétéro et ou cisgenre. Donc, moi, j'aime utiliser le terme queer plus que lesbienne, puisque lesbienne vient me définir en fonction de ma sexualité. Alors que si je dis que je suis queer, personne ne va me demander si pourquoi je suis queer ou si avant mon genre était masculin ou si c'est parce que ma sexualité est d'être attirée par une femme et d'être mariée avec une femme. Donc, en fait, ça me définit pas en fonction de ma sexualité et c'est ce qui me plaît dans ce terme. Mais encore une fois, c'est à chaque personne de choisir si elle a envie de se définir dans quel de ces termes de l'acronyme elle a envie de se retrouver. Quoi.
C'est vrai que les trois premiers termes de l'acronyme définissent clairement une sexualité.
Oui. C'est ça.
Ok, donc ça pour moi c'est assez clair. Le I.
Le I, c'est intersexe. Et intersexe, là, pour le coup, ça n'a pas de rapport avec la sexualité. Intersexe, c'est, ça concerne les personnes qui naissent avec... on peut retrouver des parties génitales dites masculines ou dites féminines dans une même personne. Et en fait, les personnes de même sexe qui naissent encore aujourd'hui subissent des transformations et même des, on pourrait dire, des mutilations. Et en fait, souvent, ce sont soit les médecins qui définissent quel sexe portera l'enfant, ou alors ce sont les parents, en fonction de comment le corps est formé.
Et c'est vrai que ça, c'est difficile, je pense, pour les parents, parce que souvent, quand à la naissance, du coup, ils manquent beaucoup d'informations. Ils ne sont pas informés sur... la plupart du temps, ils découvrent, en fait, que c'est possible. Et ils prennent des décisions non éclairées en fonction de l'avis du médecin, finalement.
C'est ça. Ouais. Il y a vraiment... un manque d'informations sur ce sujet, sur les personnes intersexes et sur comment intervenir après. Qu'est-ce que ça fait de laisser cet enfant son identité intersexe. Et il y a vraiment un gros manque. Il y a un compte Instagram qui s'appelle Intersex Info, qui est plutôt chouette et qui donne pas mal d'informations. Et d'ailleurs, ces personnes, elles ont encore beaucoup l'étiquette de personne hermaphrodite.
Oui, complètement, j'allais t'en parler.
Pour elle, puisque c'est ce qui définit des animaux. Donc, le I de LGBTQIA+, il est important pour moi, parce que il vient revendiquer l'existence de ces personnes.
Oui, complètement, il vient revendiquer l'existence d'un troisième sexe, quelque part.
Oui, on pourrait dire ça.
Et effectivement, je pense que c'est vraiment hyper important d'informer. Et d'ailleurs, je ne sais pas si toi, tu as notion peut-être d'un ratio de naissance. Alors, je pense que c'est très marginal, mais il y en a quand même un certain nombre par an.
Oui, je ne sais pas du tout. Je pense que c'est possible de trouver ça sur le compte Intersex Info, justement.
Et je crois que les interventions ont lieu un peu plus tard. Donc les parents ont quand même le temps de se renseigner, de prendre des décisions. Alors au moins de comprendre ce qui se passe pour leur enfant. Et surtout, le message que moi j'aimerais faire passer, c'est que finalement, c'est peut-être pas à eux de décider à ce moment-là, et laisser le choix à son enfant plus tard, c'est quand même...
ça peut être une des
solutions. C'est pas facile, hein, mais...
Ouais, ça peut être une des solutions. Après, il y a aussi un manque d'information de la part des professionnels de santé et dans les hôpitaux au moment de la naissance. Et ouais, c'est ça. Comme tout à l'heure, je disais mutilation, des fois, c'est vraiment de ça dont il s'agit. Et en plus, on parle de tout petit corps. Et en fait, la plupart du temps, c'était après un échange avec une personne intersexe qui me disait que ses parents avaient pris la décision de la mutilation pour définir un sexe plutôt qu'un autre, parce que les médecins avaient fait peur sur la sécrétion hormonale du bébé et donc du mauvais développement de l'enfant. Donc, peut-être que dans certains cas, ça peut arriver, mais cette information-là, on sait qu'elle est erronée aujourd'hui, et que ça dépend vraiment beaucoup de plein de choses, mais comme la bonne santé de tous les enfants, de comment ça s'est passé pendant la grossesse, comment s'est passée la naissance, et puis comment le bébé se développe une fois qu'il est né. Mais de prendre la décision très très vite, ça peut être vraiment dangereux et douloureux pour l'identité de la personne après, en grandissant.
Après, je pense que la principale problématique, c'est que les personnes intersexes manquent énormément de représentativité et de visibilité. Et donc, pour le coup, ça ne parle... Enfin, voilà. Nous, on n'est pas capable de définir, de dire, je connais... Enfin, toi, en l'occurrence, si. Mais de dire, j'ai une personne intersexe dans mon entourage. Enfin, voilà. C'est quelque chose qui est encore beaucoup, beaucoup trop peu démocratisé.
Oui, et puis peut-être même qu'on en a dans notre entourage, mais sans le savoir, puisque peut-être la décision a été prise très vite, et donc, et donc on ne le sait pas. Et peut-être même cet enfant-là ne le sait pas.
Oui, c'est possible aussi. C'est possible. Et puis je pense que l'information est quand même un peu plus disponible dans nos générations, donc les enfants à venir seront peut-être plus, enfin, les enfants intersexes à venir seront peut-être un peu plus informés, les parents aussi, mais la génération précédente, donc la nôtre, je pense que le choix, il était, enfin, il y avait même pas de choix en fait. La question, elle se posait pas.
Ouais.
C'est on choisit un sexe. Point.
C'est vrai. Ça a évolué et ça mérite d'évoluer encore, mais c'est vrai qu'il y a eu, un grand gap entre notre génération et celle qui arrive là et celle de nos parents aussi, mon Dieu.
Exactement. Oui. Bon, là. Ok, bon, c'est clair que ça, c'est pour moi aussi, je trouve que c'était vraiment hyper important d'introduire cette lettre-là dans l'acronyme parce que ça leur donne une visibilité.
Oui.
Passons au A.
Alors, le A, on ne sait pas encore, ça dépend des personnes qui choisissent un peu ce que veut dire le A. Il y en a qui disent que ça veut dire allié, les alliés des personnes LGBTQI. Il y en a qui disent que c'est agenre. Et donc, les personnes agenres, moi, j'arrive pas encore à savoir la différence entre une personne agenre et une personne non-binaire. Donc, ça fait partie des identités du parapluie transgenre. Et puis, il y a aussi asexuel. Et donc... moi, du coup, j'ai plus envie de parler de l'asexualité, là, puisque je vois un peu plus. Et l'asexualité, c'est le fait de ne pas ressentir de désir sexuel pour personne, peu importe son sexe, peu importe son genre. Et ça aussi, l'asexualité, c'est vraiment peu... on n'en parle pas, en fait. On n'en parle pas puisque y a encore beaucoup... bon, alors, la sexualité est très hétéronormée dans notre société, mais même une fois qu'on dézoome et qu'on regarde un petit peu plus les autres sexualités qui existent et qui peuvent avoir lieu et qu'on peut traverser au cours d'une vie, la sexualité, elle est peu abordée, en fait.
C'est vrai qu'elle est très peu abordée. Après, il y a quand même des allusions, même dans la littérature du 19e siècle, tu vois, de personnes qui ne vivent que d'amour romantique.
Oui.
Et finalement, je pense que la sexualité n'a peut-être jamais été définie en tant que telle, mais par contre, elle est existante depuis des générations.
Oui. Oui, oui. Et c'est pour ça que j'aime aussi... faire la différence entre orientation sexuelle et orientation romantique, puisque une personne asexuelle peut aussi se sentir lesbienne, par exemple.
Oui, tout à fait.
Donc, il y a vraiment une différence entre les deux, et il y a même des personnes qui vont avoir une orientation sexuelle hétéro et avoir une orientation romantique homosexuelle.
Oui, c'est vrai que c'est possible aussi.
Oui.
Et c'est vrai que ça simplifie, enfin ça ne simplifie pas, mais en même temps je pense que rien n'est simple et que chaque situation est particulière, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le vis. Et du coup je pense que il faut bien le repréciser, effectivement l'idée c'est pas de nous rentrer dans des cases et de nous mettre des étiquettes, mais par contre l'idée c'est d'arriver à comprendre que tout ce qu'on peut ressentir ou vivre est probablement et potentiellement normal, existant et défini.
C'est ça, exactement. Oui.
Ça rassure beaucoup. Oui. Ça rassure beaucoup.
Oui.
Et alors, le plus. Alors, le plus, moi, je l'ai vraiment défini comme un fourre-tout, tu vois. Et Après, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir un acronyme à 26 lettres, hein, soyons clairs.
Ça tient c'est clair. Déjà, de dire LGBTQIA+, ça fait déjà pas mal. Et le plus, il est justement là pour représenter les identités de genre, les orientations sexuelles ou romantiques qui ne sont pas citées dans les autres lettres. Comme la non-binarité, là il aurait fallu rajouter NB en plus, la pansexualité dont on parlait tout à l'heure, et toutes les autres identités de genre ou orientation sexuelle ou romantique. Donc, et il y en a aussi qui mettent les alliés dans le plus.
Ouais. Alors ce qui est intéressant, alors on va définir l'allié tout à l'heure, mais ce qui est intéressant dans le plus, c'est que au-delà du fait que ça fait fourre-tout, c'est surtout que ça ouvre les possibilités. Ça ouvre ça ouvre la possibilité de découvrir d'autres situations et de les intégrer.
C'est ça.
Donc je pense que ce qu'il faut retenir en fait dans le LGBTQIA+, c'est tout ce qui est non hétéronormé. Et encore. Parce que finalement, c'est aussi une définition sexuelle. Enfin, tu vois, d'une orientation sexuelle.
Oui, en fait, moi, en fait, là où je suis pas encore, les fois où je parle de nos familles, des fois je dis les familles LGBTQIA+, et des fois je dis les familles queer. Parce que queer, comme c'est toute personne qui n'est pas hétéro et ou cisgenre, ça vient englober un peu le LGBTQIA+, qui lui vient définir et permettre aux personnes de s'identifier.
Et c'est vrai que pour le coup, je trouve que le terme queer est beaucoup moins péjoratif. Alors attention, hein, qu'on s'entende bien, les termes lesbien, gay, bisexuel, etc. ne sont pas péjoratifs, mais par contre, ils n'ont pas forcément une bonne connotation.
Oui.
Et je trouve, à titre personnel, que le terme queer a une meilleure connotation. En tout cas, il est plus récent et les gens l'ont mieux intégré, j'ai l'impression.
Ouais, bah c'est vrai que, en tout cas, les personnes qui peuvent me définir à ma place n'ont pas la même intention quand ils me définissent en tant que lesbienne que quand ils me définissent en tant que queer en général.
Ouais. Parce qu'encore une fois, lesbienne, ça définit une sexualité et on n'est pas, on n'est pas défini par une sexualité.
Non.
Enfin, tu vois, je sais pas comment te dire, mais on définit pas un hétérosexuel par sa sexualité.
C'est ça.
Donc ouais. Pourquoi nous devrait être catégorisés?
Ouais, vraiment. Et d'ailleurs, on le remarque aussi beaucoup, puisque là, le thème, c'est accompagner, soutenir les familles queer. Et on le remarque aussi dans l'accompagnement à la parentalité ou pendant la grossesse, où nous, avec Maëva, on nous a posé tellement de fois la question « Mais alors, comment vous avez fait ?» Parce que les personnes savent qu'on est lesbienne. Et alors que bah, ça vient toucher à notre intimité, puisque ça vient toucher à notre sexualité, la conception de notre enfant. Et c'est une question qui est vraiment très rarement posée aux personnes hétéros et surtout à celles qui ont des difficultés à concevoir. Donc c'est vraiment particulier, quoi.
Oui, c'est vrai que c'est souvent la première question qu'on nous pose c'est la deuxième maman,
ouais.
Le deuxième papa. Ah, mais alors vous avez fait comment?
Ouais.
Et toi, t'as fait comment? Alors bon, c'est tout l'intérêt et tout l'objet du podcast, donc je vais pas la première à poser la question, mais l'idée pour moi c'est de visibiliser, c'est pas du tout de rentrer dans l'intérêt.
Oui, puis moi j'aime en parler, j'aime raconter notre histoire quand on a le temps d'en discuter, mais si c'est entre deux couloirs avec le président de l'asso du boulot, non quoi.
C'est tout est une question de contexte.
C'est ça.
Dernier terme à définir, du coup, le A de allié.
Oui. Oui, oui, du coup, allié, soit dans le A, soit dans le plus, soit pas du tout. Y a des personnes qui souhaitent que les alliés soient en dehors de notre acronyme. Et je l'entends aussi. Moi, je me positionne pas encore dessus puisque je suis pas concernée, puisque je suis pas alliée LGBTQIA+, je suis queer, donc je sais pas. mais j'aime parler d'alliés, notamment dans mon militantisme féministe, et donc j'aime aussi en parler pour le soutien et la visibilité de nos familles. Et donc, les alliés sont les personnes qui ne sont pas concernées, comme les alliés féministes. Ils sont, moi, je trouve que les hommes féministes sont des alliés. Et donc là, les personnes qui ne sont pas queer et qui viendraient... En fait, les alliés sont les personnes qui s'informent ou qui sont informées, qui nous visibilisent, qui permettent à nos enfants d'avoir dans leur bibliothèque des albums jeunesse dans lesquels nous, on est représentés. Par exemple, à l'école, une maîtresse d'école qui serait pas du tout queer, elle pourrait choisir que dans sa classe, il y ait des livres qui représentent des personnes queer. Et elle, c'est une alliée, cette personne.
Oui, complètement.
De nous donner la parole, de nous écouter, de ne pas parler à notre place. tout ça, c'est... Et aussi de reprendre quand il y a des insultes homophobes ou transphobes qui sont dites à un repas de famille avec le fameux oncle Michel. C'est mon défaut à chaque fois, donc j'espère que ça a un oncle Michel, mais... où on entend très souvent, mais même dans la rue ou même dans les cours d'école, enculé, tapette, travelot, toutes ces insultes, en fait, de venir les reprendre comme on reprend aujourd'hui, j'espère, les insultes racistes.
Oui, alors je pense que pour le moment, on reprend peut-être plus les insultes racistes parce que le travail a été fait de plus longue haleine. J'espère, alors même si je sais que c'est encore le quotidien de tellement de monde.
Oui.
Mais voilà, nous, on a encore un peu de chemin à faire.
Oui, c'est ça. Bah, en fait, maintenant, ça passe plus d'entendre le négro. J'espère qu'il y a de moins en moins d'oncle Michel qui disent ça. Mais, mais par contre, enculé, tapette, mais en fait, sur toutes les insultes, il y a tellement de choses à revoir, même. C'est un autre sujet, mais de dire putain, c'est un mot qu'on utilise vraiment souvent et qui est en fait vraiment dénigrant pour les travailleurs et travailleuses du sexe, quoi.
Complètement, que d'ailleurs je ne définirais pas comme ça personnellement, mais...
c'est fou.
Ouais. Oui, bah oui, parce qu'en plus le terme est tellement connoté négativement que c'est dégradant, quoi.
Ouais, il y a vraiment un truc à faire sur les insultes. Et donc, par exemple, une personne alliée, elle pourrait choisir d'intervenir dans des centres de loisirs pour venir faire un jeu sur qu'est-ce que ça veut dire toutes les insultes. Je sais pas, par exemple, avec des enfants ou des ados d'un niveau collège ou lycée ou même plus petit, sur qu'est-ce que ça veut dire, en fait, d'où elles viennent toutes nos insultes pour venir déconstruire et que nous, ce soit pas à notre job de le faire, parce qu'on en a vraiment beaucoup du travail à faire. Donc, c'est des soutiens.
Et c'est vrai que je pense que les enfants, enfin pour le coup, je rêverais d'une société où les enfants viendraient éduquer leurs parents, parce qu'eux auraient été ouverts d'esprit, enfin ouverts à, et auraient... enfin, je vais mal m'exprimer, je pense, mais ils auraient été ouverts à, tu vois, et les enfants sont tellement plus sains, moins formatés que je pense que eux, ils ont aussi un rôle.
Ouais.
Tu vois.
Ouais.
Je pense qu'effectivement, on a beaucoup de choses à faire d'abord auprès des enfants.
Ouais. Bah, en fait, je me dis que, mais ça, je le relie aussi beaucoup à l'écologie. À toutes les choses qui m'animent et qui me font être une personne militante. Mais c'est vrai que si je reprends ce que tu me dis, ça me fait penser à la fois où on avait eu une intervention pour apprendre à trier nos déchets recyclables quand j'étais en CE2, je crois. Et où je suis rentrée à la maison et où j'ai appris à mes parents à trier les poubelles. Et c'était la première fois qu'ils en entendaient parler et où toute la maison s'est mise à trier les poubelles. Et donc, mes parents ont commencé à ce moment-là à avoir un petit geste écolo pour la première fois. Et donc, je pense que ça peut être vraiment... oui, c'est ça. Tous les sujets peuvent être traités... Par le biais des enfants.
Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important d'accompagner les enseignants, d'accompagner les moniteurs de centres aérés, de les éduquer, de leur ouvrir l'esprit pour qu'eux puissent apporter et informer les enfants. Parce que c'est par eux que ça va passer.
Oui. Ah oui, j'en suis convaincue. J'en suis convaincue. Je pense qu'il y a plein d'actions à faire aussi en direction des adultes, notamment sur les personnes qui accompagne, moi, comme je suis doula, mon credo, c'est les professionnels de la périnatalité. Et donc, moi, je vais venir permettre aux professionnels de la périnatalité d'être informés. Je vais venir leur donner des informations, voire les former. J'aimerais faire ça à plus long terme. Et donc là, je viendrai intervenir en direction des adultes, mais c'est les adultes qui accompagnent les personnes qui sont concernés, alors qu'en passant par les enfants, c'est la société en plus grand qu'on pourrait faire évoluer.
Complètement. Oui. Ça me permet de rebondir en fait sur un thème qui est, je pense, très important. C'est justement, puisqu'on vient d'en parler, c'est comment être une alliée ou un allié conscient ou consciente.
Alors, bah, justement, oui, de s'informer. Et en fait, c'est ça, j'ai envie de dire, informez-vous et n'attendez pas que ce soit à nous, les personnes concernées, de vous informer. C'est comme, je le relis beaucoup au féminisme, encore une fois, mais de demander systématiquement aux femmes d'informer les hommes sur comment être un allié. Non, on n'a plus besoin de vous materner, messieurs, faites-le vous-même, il y a plein de ressources partout. Et ben, dans le cas d'être un allié ou une alliée conscient ou consciente, c'est la même chose, de s'informer, et pour s'informer pour se déconstruire. Et il y a plein de comptes Instagram, parce que c'est un réseau social que j'aime beaucoup, de comptes Instagram. Donc, par exemple, peut-être tu pourras les mettre en note d'épisode ou on les mettra à l'écrit. Et puis, oui, il y a des podcasts aussi qui existent, bah, comme Les Enfants Vont Bien, qui permettent de s'informer. Et j'espère qu'il n'y a pas que des familles concernées qui écoutent. J'espère qu'il y en a plein, des familles concernées qui écoutent, parce que ça fait du bien de se sentir représentée, de pouvoir enfin s'identifier. Mais j'espère qu'il y a aussi des familles hétéros et cis qui écoutent ce podcast et qui nous entendent, en fait. Qui nous offrent du temps dans leur journée pour nous écouter et pour nous permettre d'exister dans leur vie, dans leur représentation.
Oui, je t'avoue que c'est vraiment... j'avais deux objectifs en fait en créant ce podcast. C'était le premier, évidemment, de faire partager nos parcours pour que d'autres familles puissent se lancer dans leur parcours aussi, faire comprendre que c'était complètement faisable, envisageable et en plus ouvrir les options. Et la deuxième, et c'est celle qui me semble actuellement la plus difficile à atteindre, le deuxième objectif, c'était vraiment de nous visibiliser, de faire découvrir nos familles à des personnes qui auraient envie de militer pour nous, peut-être, ou même de découvrir, de comprendre. Et je pense que par cette ouverture d'esprit, on dédramatise tout ce qui tourne autour de nos familles.
Oui. Ah oui, j'en suis convaincue. Merci de faire exister ce podcast.
Je t'en prie. tu évoquais aussi, et je pense que ça c'est et on en a reparlé hein, tout à l'heure, du fait de passer par les enfants et le fait de normaliser nos schémas familiaux auprès des enfants, ne serait-ce que par le biais, enfin parce que ça c'est quand même, moi ma première fille était persuadée que Aude était un papa.
Ah oui.
parce qu'on lui lisait des histoires uniquement avec des papas et des mamans. Alors nous, voilà, ça, pour ouais. nous, c'était acté qu'on était deux mamans, tout ça. Mais tu vois, pour un enfant, c'est pas forcément évident. Il a besoin de modèles, de se représenter.
Ouais.
Et aujourd'hui, on a encore trop peu de littérature enfantine qui nous représente, et de littérature tout court d'ailleurs, j'ai envie de dire, qui nous représente.
Ouais.
Je pense qu'il faut vraiment, vraiment arriver à intégrer et à faire intégrer et à développer la littérature autour de... Alors, je parle pas que de nos familles queer, mais de l'ensemble des familles qui peuvent exister.
Ah oui, oui, même sur les représentations aussi des personnes racisées, par exemple, pour trouver un livre dans lequel il y a une représentation, de personnes queer, de personnes racisées, de personnes en situation de handicap, mais soit c'est le sujet principal, donc... je sais plus, il y en a des très chouettes, je sais plus comment il s'appelle cet enfant, à deux papas, ou les deux papas
non.
de... Ouais.
Non.
Je sais plus. Mais il est super, ce livre. N'empêche que c'est le sujet principal du livre. Donc,
oui, c'est ça.
Il ne peut pas juste aller à l'école comme les autres, cet enfant. ou aller sur le pot. Enfin, il y en a plein des sujets à traiter.
complètement, avec différents types de familles qui pourraient être représentées à ce moment-là. Mais ouais. Le thème ne serait pas cette famille-là, précisément.
Ouais.
C'est important aussi, hein, parce qu'il faut pouvoir expliquer aux autres enfants. Donc, c'est très important aussi qu'il y ait des livres qui expliquent les différents types de familles.
Oui.
Mais ce qui manque vraiment, c'est le fait d'être représenté dans des histoires lambda, en fait.
Oui, Ouais, c'est assez impressionnant. Ça, c'est une bonne action pour des alliés illustrateurs ou illustratrices ou, ou auteurs ou autrices de littérature jeunesse.
Exactement. Intégrez-nous dans vos histoires.
Oui.
Intégrez toutes les familles dans vos histoires. Il y a de tout. Et au contraire, enfin voilà, on le sait, il y a 50% des mariages qui finissent en divorce. Aujourd'hui, ces familles qui sont recomposées, elles sont pas assez représentées non plus. Alors que pourtant, il y en a tellement. Enfin, c'est voilà. Il faut vraiment qu'on fasse évoluer les choses.
Oui.
Complètement. Donc effectivement, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais faire un post sur Instagram global où je vais traiter en fait de l'ensemble des actions qui peuvent être réalisées pour être des alliés conscients.
Oui, super.
Je te remercie beaucoup Marion. Je pense que c'est beaucoup plus clair pour moi c'est beaucoup plus clair. On a traité de l'ensemble des lettres de notre acronyme et on y a rajouté le A de allié parce que pour moi effectivement, alors ça n'est qu'un avis personnel, mais le A de allié, il s'ajoute à notre acronyme, mais il n'en fait pas partie.
Ouais.
En tout cas, on en a besoin de ces alliés, clairement.
Ouais.
Donc je pense qu'en tout cas pour moi, tout est beaucoup plus clair. Et je te remercie beaucoup parce que je pense que c'était nécessaire de redéfinir, en fait, l'ensemble de ces, des lettres de cet acronyme et aussi et surtout pour les gens qui n'en sont pas, qui n'y réfèrent pas, en fait, qui n'en font pas partie.
Oui. Oui, j'espère que j'ai été claire en définissant avec ma vision actuelle de ce que j'en sais à force de discussions et d'échanges sur le sujet avec des personnes concernées. J'espère que je ne me suis pas trompée et que je n'ai pas... parce que c'est toujours délicat puisqu'il s'agit d'identité. Et donc, j'espère que j'ai... était juste dans la définition de chacun de ces termes. Et si ce n'est pas le cas, j'aurais envie d'en discuter avec grand plaisir par les personnes qui se sont senties peut-être bousculées par mes mots qui étaient maladroits. Voilà. Je suis toute ouverte.
En tout cas, clairement, ce qu'on peut retenir, c'est que ça a été fait en toute bienveillance et que tu es ouverte à la discussion et donc à la correction. Et s'il y a besoin, on corrigera sans problème.
Oui, tout à fait. C'est important pour moi de le dire.
Mais je le comprends. Et moi aussi, je t'avoue que je fais encore et j'en fais des erreurs. Et des fois, je ne me rends pas compte, c'est pas non plus volontaire. J'oublie des fois d'intégrer des genres, des personnes. Et je sais que ça passe mal et j'en suis moi-même désolée.
Ouais, c'est un grand cheminement, mais c'est bien. La route est longue, mais la voie est libre.
Voilà, c'est une belle fin, je pense, effectivement. La route est longue, mais la voie est libre.
Oui.
Je te remercie, Marion, beaucoup pour ce décryptage ce soir. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.
Oui, à bientôt.
À bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir le podcast en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et plus particulièrement sur Apple Podcasts afin de lui donner plus de visibilité. N'hésitez pas à le partager et à le faire découvrir. Plus nous gagnerons en visibilité, plus nous aiderons d'autres familles à se construire et ainsi nous normaliserons les nouveaux schémas familiaux. Peut-être aurons-nous aussi la chance de pouvoir rassurer et montrer la voie aux nouvelles générations. Vous retrouverez en note de cet épisode le compte Instagram de Marion, son compte professionnel, @maisonsouslalune. Et comme je le précise dans l'épisode, vous aurez aussi rapidement un post dans lequel je préciserai les ressources qui vous permettront d'être un allié, de nous accompagner ou de faire découvrir à des alliés nos familles. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode du podcast Les enfants vont bien. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in this dream. While you watch the people speaking words you can't quite comprehend. You ask me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine. Just like I was when 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. No.
this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone. Less alone. Josephine, even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest, so I grab what I can cling to and I leave behind the rest. I'll hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out. Less alone, less alone.